Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la société dans tous ses états. Nous sommes le 3e lundi du mois, il est 18h sur Radio Libertaire, la voix du Némède de la Fédération Anarchiste. Aujourd'hui, Mohamed au micro, Lulu à la technique, salut Lulu. Aujourd'hui, salut. J'ai le plaisir d'interviewer par téléphone Michel Binizri. Michel Binizri, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends très bien.
Parfait.
Content d'être là.
Bah oui, très bien. On est donc à distance. Hein. Tu es quelque part dans le sud-ouest, je crois.
Exactement. Je suis là aujourd'hui dans le Tarn.
Très bien. Bon, j'espère que tu as du soleil, qu'il fait un peu plus chaud là-bas qu'à Paris.
Bah, je ne sais pas quel temps il fait à Paris, mais c'est cool ici.
Très bien. Michel, donc je t'ai convié à cette émission parce que j'ai vu. Et j'ai entendu parler de toi, et j'ai vu sur Internet une conférence gesticulée intitulée « Moi, français, juif, arabe, comment j'ai démissionné du sionisme » que tu as écrite et que tu interprètes depuis quelques années maintenant. Et on va, si tu le veux bien, au cours de cette émission, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 19h30, discuter ensemble du contenu de cette conférence gesticulée. Et j'ai plein de questions que je vais te poser au fur et à mesure de notre entretien, en particulier sur ton rapport à cette histoire, ton positionnement en tant que juif marocain né en France et ayant grandi ici, le regard que tu portes sur ta culture, le regard que tu portes sur la situation au Moyen-Orient, sur Israël, sur le conflit israélo-palestinien, sur l'antisémitisme. On va essayer d'aborder toutes ces questions au fur et à mesure, si tu le veux bien. Tout d'abord, je voudrais te présenter. Tu es donc comédien, c'est ton métier, c'est ta profession.
Ouais, c'est ça, ouais. Et... Bah, écoute, j'ai de la chance, ça fait 42 ans, bientôt 43 que je fais ce métier et que j'arrive à en vivre. Et je trouve que c'est super.
Bien sûr.
D'avoir pu... à la fois aller rêver de faire ce choix-là et puis d'y arriver. Et puis voilà, à 63 ans, me dire « Ah bah putain, c'est cool quand même !» En fait, si je regarde derrière moi, bah, j'ai fait le métier que je rêvais de faire. Voilà.
Et alors, tu as choisi de présenter sous la forme de la conférence gesticulée tes réflexions et tes idées. D'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une conférence gesticulée ? J'avais interviewé il y a pas mal d'années maintenant, c'était en 2009, Franck Lepage, donc, qui a été l'un des initiateurs de ce mode d'expression. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça, d'où ça vient et qu'est-ce que ça produit ?
Alors, en fait, aujourd'hui, une conférence gesticulée, c'est très clairement une prise de parole publique et qui porte nécessairement une dimension politique. Voilà. Alors, une fois que ça c'est dit, on n'a pas encore tout dit, mais c'est quand même un point de départ vraiment important, parce qu'il y a d'autres personnes qui font des spectacles, qui vont faire du théâtre, c'est une conférence de spectacle, et comme il y a un petit peu un phénomène de mode avec les conférences gesticulées, il y a des gens qui essayent de s'approprier je vais faire une conférence gesticulée. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait un spectacle autour du vin et de l'histoire du vin et du plaisir du vin et de faire découvrir les vins. Ça ne peut pas être une conférence gesticulée si on oublie la dimension politique qu'il y a dedans. Et même cette dimension politique, elle est clairement anticapitaliste, antisexiste, colonialiste. Voilà, il y a vraiment toutes ces. Il y a quelque chose qui a à voir avec le classisme, le sexisme, le racisme, parce que tout ça œuvre ensemble à renforcer le pouvoir et en même temps les inégalités. Donc, d'une certaine manière, les conférences gesticulées cherchent, consciemment ou inconsciemment, à composer un corpus de réflexion qui va faire qu'au travers des expériences personnelles de chacune des personnes qui va faire une conférence gesticulée, il y a un travail de réflexion et que ces outils-là, c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont partagés sur Internet, que ce soit des outils de réflexion pour les uns et les autres, mais pas seulement de réflexion, mais aussi en termes de solutions. Parce que juste dire, moi, j'ai j'ai tel problème et puis je lève le bras et je suis pas content. Il y a un moment donné où ça suffit plus et où peut-être que le fait de pouvoir transmettre les solutions que soi-même on a trouvées ne sont pas toujours valables pour tout le monde, mais au moins elles ne sont pas perdues. Et par contre, parfois, eh ben, ces solutions-là, elles permettent à quelqu'un d'autre de faire aussi un bout du chemin dans ce sens-là, sortir de l'aliénation dans laquelle on aurait tendance à vouloir nous maintenir. Voilà.
Est-ce que pour toi, c'est une forme de militance ? Est-ce que c'est un acte
totalement
militant ?
Oui. Pour moi, c'est clairement un acte militant. Après, je pense que probablement que d'une conférence gesticulée à l'autre, ça peut être le curseur peut être à des endroits différents, mais il y a une des règles principales, c'est d'avoir participé à ce qu'on appelle un monte à conf, qui est en fait un stage de formation collective qui va durer sur plusieurs mois. Et cette formation-là va permettre de faire élargir à la fois éventuellement des sujets sur lesquels toi tu aurais envie de t'exprimer, mais de faire émerger aussi ta compétence à l'endroit où tu es spécialiste, même si tu n'en es pas forcément un d'un point de vue du diplôme, mais que ton expérience va faire de toi quelqu'un de spécialiste à cet endroit-là.
Ça, c'était l'idée de Franck Lepage initialement, à partir de l'éducation populaire, en fait.
Exactement, et ça reste ça. Ça, c'est complètement vrai. Donc, du coup, il y a à la fois, du point de vue des formateurs, formatrices, une vigilance et en même temps de aider à faire accoucher au sein du groupe, pour chacun ou chacune, d'arriver à faire accoucher de telle forme, ce spectacle, ou enfin, plus ou moins spectaculaire. Alors après, moi, ben, comme je suis comédien, on ne se refait pas. Hein, c'est-à-dire que naturellement, ben, je vais beaucoup plus vers le spectacle que certains autres. C'est du bien ou du pas bien. Ça n'a pas d'importance. Après, chacun y retrouve ses petits. Voilà. Il y a des gens qui pourraient dire « Ah, ben, c'est trop spectacle. » Bon, ben, peut-être. Mais en même temps, c'est pas vraiment un reproche que j'ai très souvent entendu, parce que, au contraire, des gens me disent bah, « Voilà, bah, c'est super, parce que, justement, la dimension de spectacle qu'il peut y avoir dedans, sans qu'il n'y ait aucune coupure, parce que je suis en lien totalement et tout le temps avec les spectateurs, dans une parole à la première personne, je dis « Je, j'ai vécu ça, ou j'ai compris ça, et je vous explique pourquoi. Pourquoi ?» tel que je l'ai compris.
Comment tu as découvert ce mode d'expression, ce mode de militance ?
Alors, les choses sont un peu... c'est rigolo, quand même. En fait, je travaillais pour le parc naturel régional du Verdon, comme crieur public, et assez rapidement, il y a eu la présentation d'une conférence gesticulée, celle de Marc Pion, qui s'appelle « Du tracteur à l'âne ». Et cet homme racontait son chemin de paysan pour sortir de la contrainte de majeure des paysans, c'est l'endettement. Et donc sortir de cet endettement en se disant, ben, au lieu d'avoir un tracteur qui va me coûter 100 000 euros, je vais avoir un âne. Et ce que je vais faire avec un âne, ben, du coup, me rapportera moins, certes, mais comme j'aurai beaucoup moins à dépenser, je n'aurai pas besoin d'avoir un tracteur. Et en fait, tout ce chemin-là conduit finalement à une meilleure qualité de vie, à une meilleure qualité de production et à avoir du temps pour lui. Quand l'âne ne veut plus bosser, lui aussi, il peut s'arrêter lire. alors que le paysan qui est dans son tracteur et qui doit faire une journée aller, une journée retour pour ensemencer ou faire je ne sais quoi, qui ne va pas beaucoup avoir de sens, qui va juste permettre de financer le tracteur qui lui-même est financé par la banque et éventuellement tous les autres produits phytosanitaires qui nous empoisonnent derrière. En fait, en ayant fait ce choix-là, qui est un peu un choix extrême, a priori, ça, hein, mais ce n'est pas du tout un retour à la bougie. C'est juste un moment donné où on revient à l'humain. Donc, et à un rapport au temps qui est d'une nature plus humaine.
Et donc,
en voyant ce spectacle-là, que je me suis dit, tiens, c'est fort, quoi. C'est fort, cette... Parce qu'en même temps, ce qu'il faisait en racontant son expérience, pendant presque 2 heures, Il nous analysait aussi un système qui conduit à ça, qui conduit à l'enfermement, qui conduit au suicide des paysans, qui conduit à l'endettement. Donc y a, c'est un truc mortifère, quoi.
Ce qu'on n'a pas dit... Excuse-moi, ce qu'on n'a pas dit quand tu nous as présenté la conférence cycliste, c'est que c'est aussi une réflexion commune. C'est pas simplement tu viens, tu fais ton one-man show en quelque sorte, ça s'arrête. Après, il y a une discussion, une réflexion en commun, je pense.
Alors, ça dépend, pas forcément, mais parce que, bon, en l'occurrence, pour ma conférence gesticulée, il y a peu de débats à proprement parler après, parce qu'en gros, moi, pendant 2 heures, j'ai beaucoup parlé, et je crois que j'ai dit et tout ce que j'avais à dire, très clairement, et qu'ensuite, ce qu'il reste, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages eux-mêmes à dire, et éventuellement à me dire... oui, moi j'ai vécu ça, moi ma famille a vécu ça, et donc je comprends aujourd'hui, merci, pourquoi il se passe ceci ou il se passe cela, pourquoi il y avait tel secret, ou des choses de cet ordre-là. Mais c'est vrai que souvent, il y a, moi j'en ai aussi de toute façon des temps de discussion avec les gens, mais elle n'est pas forcément formelle, elle n'est pas forcément organisée, mais il peut y avoir carrément des ateliers derrière. De 2 heures, 3 heures, 4 heures, où on va pouvoir discuter, transmettre, mettre en œuvre éventuellement collectivement un certain nombre de pratiques. Mais après, je pense que ça fait d'une conférence gesticulée à l'autre, c'est différent. Voilà. En tout cas, moi, dans ma conférence, comme je tisse plusieurs fils en même temps, dont un dont on parlera plus tard, mais qui est quand même assez important. Ça fait réfléchir, mais c'est pas juste maintenant. Je crois que c'est une graine que je plante aussi dans la tête des gens sur la notion de fiction, que l'humanité, c'est une humanité qui te raconte beaucoup, beaucoup d'histoires et que c'est comme ça qu'on vit. On en parlera plus.
Plus longuement sur
ce. En tout cas, ce mélange de ce qu'on appelle savoir chaud et savoir froid, c'est-à-dire des savoirs plus. Savoir froid, ça va être un savoir peut-être universitaire, mais en tout cas, au service de notre analyse politique, on va pouvoir mettre la compréhension à la fois universitaire que l'on a pu nous-mêmes collecter et les mettre en perspective avec notre propre expérience personnelle, que l'on va appeler le savoir chaud, et comme disait Franck Lepage, mélanger le chaud et le froid, pas pour faire du tiède.
Exactement. Il y a combien de temps que tu as commencé ce travail là, autour de la conférence que tu donnes ?
Alors en fait, j'ai commencé à travailler dessus, je pense peut-être en 2014, 2015, quelque chose comme ça, sur des étapes différentes de documentation, de lecture, d'approfondissement. Je me posais des questions et j'avais besoin... de comprendre, et à chaque nouvelle réponse apparaissaient 2 autres questions. Et donc, j'ai creusé très très longtemps, jusqu'au jour où la possibilité m'a été offerte de participer à un stage, à un Monte-à-Conf, et je suis arrivé avec mon sujet, et j'ai commencé à travailler dessus. Alors, on était en 2010. Et puis, fin 2018, une première mouture, tout fraîchement émoulue du stage, sort en mois de décembre. Il me manquait encore la fin lorsque le stage s'est terminé. J'ai continué à travailler et puis mi-décembre, fin décembre, j'ai pu faire une présentation chez mon fils et chez des amis. Et puis j'ai continué à travailler vraiment en me disant, bon, de toute façon, le truc, c'est un premier jet, naturellement, il faut retravailler. Et en fait, j'ai fait 6 versions successives tous les deux mois pendant toute une année. Et à chaque fois, je le présentais devant une vingtaine, trentaine de personnes, des copains la plupart du temps, jusqu'à ce que ça s'est affiné. Il y avait des gens qui me disaient « on comprend rien », ou au contraire « là vraiment, il manque un bout, il faut que tu nous expliques ça ». Etc. Et au mois de décembre, finalement, j'avais ma version, qui est pratiquement celle que je fais aujourd'hui. Et puis, donc décembre 2019. Et puis, y a une tournée qui a commencé à se monter, qui était prête pour le mois de mai 2020. Et octobre 2020, il y a eu Covid. Et ce qui fait que Covid report, donc ça s'est reporté de mai à septembre, il y a à nouveau eu Covid, donc ça a été reporté au mois de mars, puis à nouveau au mois de mai, et c'est finalement que en septembre 2021 que j'ai commencé à la jouer. Sur cette première tournée initiale qui était prévue, sur Tours, Saint-Brieuc, Brest et dans les coins par là-bas. Et en fait, ça a marché. Il y a eu un bouche à oreille qui s'est fait. Il y a continué à y avoir des questionnements qui m'ont interrogé. J'ai donc encore continué à creuser, qui a enrichi certaines parties de la conférence gesticulée. Et puis aussi, il y a des choses qui étaient un peu fraîches, un peu vertes, et qui, au fur et à mesure des représentations, a mûri et participe vraiment à la partie spectacle, vraiment, quoi. Et ce qui fait que dès 2022, vraiment, j'avais fait une quinzaine de représentations. Dès début 2022, j'étais sur une lancée, comme ça, vraiment, une espèce de fusée, comme ça, qui est partie. Avec une grosse collaboration de l'association France-Palestine Solidarité qui s'est sentie tout à fait concernée par mon propos et a programmé régulièrement ma conférence gesticulée un peu partout en France. Voilà.
Donc le titre, moi français, juif arabe, ouais. Comment j'ai démissionné du sionisme. Alors, Un petit rappel biographique, donc tu es né en France, c'est bien ça?
Je suis né à Paris en 59.
De parents juifs marocains qui...
Exactement.
Voilà, tu peux nous dire un petit peu.
Qui eux-mêmes, en fait, ont quitté le Maroc en 48 avec, je le raconte dans mon spectacle, ouais. Mais avec le rêve d'aller s'installer en Israël, un rêve qui avait été à la fois prié pendant 2000 ans, hein, si Dieu veut l'an prochain à Jérusalem. Oui. Et en même temps, qui a été un travail de propagande extraordinaire qui avait été réalisé par les Juifs européens. Ils ont tenté leur chance et ils sont arrivés dans un pays qui était à construire entièrement et surtout où ils allaient subir en tant que Nord-Africains le racisme des Blancs, des Européens, voire des survivants de la Shoah. Et ce racisme a été tellement violent que beaucoup, après avoir fait leur alia, ont fait leur yérida. Alors l'alia, c'est l'ascension, monter, quitter le pays de la diaspora dans lequel on est pour aller s'installer en Israël. Alors on ne parle pas beaucoup de la yérida, c'est-à-dire la redescente de tous celles et ceux qui quittent Israël parce que c'est parfois... Ça l'a été ou ça l'est encore, assez invivable à certains égards. Mais donc mes parents ont par deux fois tenté leur chance là-bas, et ça a été trop galère, et finalement ils ont décidé de venir vivre en France, et c'est pour ça que moi je suis né ici, et ils y sont restés. Moi j'ai toujours ressenti, dans ma culture, je trouve que j'utilise bien le mot culture, une appartenance forte à l'Afrique, et au monde arabe, que ce soit par un sens musical, un sens du rythme, un sens de un goût pour les épices, pour la musique arabe, pour tout un tas de choses comme ça. Et puis à la maison, mes parents parlaient arabe entre eux, et comme je le dis dans ma conférence intitulée, ils regrettaient la solidarité et l'amitié entre les communautés au Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui, sans vraiment le savoir, m'a été transmis. Et au fond de moi-même, je me suis toujours senti appartenant à plus qu'à la France et à plus qu'à Israël, mais en venant d'ailleurs. Moi, je suis beaucoup allé en Israël quand j'étais enfant, adolescent, et si j'ai rêvé de ce pays, c'est aussi parce que on m'avait vendu un sionisme qui était fait de générosité, de collectif, de voilà. et qu'au fond, ça n'allait pas du tout être ça, parce que l'égoïsme libéral allait faire tourner le monde d'une autre manière, quoi.
On va revenir, si tu veux bien, Michel, plus en détail après sur cet aspect-là. Je voudrais simplement qu'on revienne un petit peu sur ton milieu, l'endroit, le milieu dans lequel tu vis. C'est un milieu donc judéo-arabe. Ce sont tu es descendant d'une lignée de juifs marocains qui vivent. Alors, je crois que ton père est de Meknès, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Mon père de Meknès et ma mère de Casablanca.
D'accord. Ils ont vécu donc ils sont nés là-bas. Ils ont vécu leurs premières années au Maroc. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis de leur ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont transmis ou pas de leur vie au Maroc? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté sur leur vie au Maroc?
Alors c'est très étrange, mais je vais peut-être. Alors ils m'ont raconté peu de choses et beaucoup de choses. Ouais. Mais moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours regretté de ne pas avoir un grenier rempli de choses. Et ce manque de grenier, qui était l'endroit des grands-parents, que moi-même je n'ai pas connu, ben, cet endroit-là, cette maison des grands-parents dans laquelle il y avait toute une histoire, ben, moi, je m'en suis toujours senti coupé, sans forcément comprendre pourquoi. J'étais enfant, tout petit. Et quand plus tard, bien plus tard, j'ai compris d'où j'étais, de quoi j'étais coupé, ben, en fait... ce qui m'a été transmis et ce à quoi je me raccroche, c'est à des petites choses comme le couscous ou le thé à la menthe.
Bien sûr, je connais ça.
ou bien la musique arabe par exemple, que ça soit celle d'hier ou celle d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires dedans. Bon, voilà, après c'est difficile d'en dire plus, mais comme je dis aussi, le sens de l'accueil, de l'hospitalité, le sens de la fête, voilà, il y a tout un, il y a tout un univers social qui est parfois aussi vrai en Bretagne et qui est, en tout cas, dans mon image d'Épinal à moi, celui de mon Maroc fantasmé.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une part de nostalgie aussi dans cet attachement?
Bien sûr. Bien entendu. Mais comme dit Jean Kelevitch, dans l'irréversible et la nostalgie, il y a quelque chose d'irréversible. Ouais. Et la nostalgie, c'est une construction mentale.
Ouais.
Donc j'ai travaillé là-dessus, puisque moi, la seule chose que je pouvais avoir, c'était des photos, des bouts de tissu, des petites choses, que des petites choses qui avaient pu voyager dans une valise, et pas plus. Parce que partir, c'est tout abandonner. Voilà. Donc mes parents sont partis.
Alors, excuse-moi de te pousser un petit peu dans tes retranchements, mais c'est une question à laquelle moi-même, fils d'immigré, grandi en France, à la fois loin et proche de ses attaches familiales. Pour la petite histoire, mes parents viennent de Tunisie, de Djerba. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu d'idéalisation d'un passé qu'on cherche à embellir ou à mythifier? C'est pas du tout une provocation que je fais là, c'est simplement pour pousser la discussion avec toi.
Alors, écoute, pour moi, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a la partie du rêve ou du fantasme, c'est un petit peu ce dont tu parles, et puis il y a une autre partie qui est la partie du monde réel au travers des images que l'on peut recevoir du Maghreb ou du monde arabe plus globalement. Où ça n'a pas l'air facile. Et si je prends la part fantasmée, aujourd'hui, moi, je suis un juif, comme je dis, ni croyant ni pratiquant. Bon. Donc, j'ai quitté la boîte.
Ouais.
Mais j'ai gardé le savoir-faire.
Oui, ça c'est...
tu vois, je le dis comme ça, c'est à la fois une blague, mais en même temps, c'est vrai, c'est le réel. Mm-hmm. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de fantasmé? D'abord, très certainement, et pour une bonne raison, c'est que je ne suis encore jamais allé au Maroc de ma vie. Et que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Bien entendu, il faut que j'aille au Maroc. Mais ça ne se fait pas. Mmh. Ça ne se fait pas parce que, je ne sais pas, je vais ailleurs, quoi.
Ouais.
Et puis, la question de la nécessité, elle est importante. Je ne suis pas un très grand voyageur, en vérité. Donc, je, voilà, c'est pas une chose. Je suis pas un grand voyageur, Donc, j'aime bien aller pas forcément très loin. Et puis là où je suis, souvent, je me sens bien parce que voyager, c'est aussi être avec des gens, rencontrer des gens ou retrouver des gens que je connais, que j'aime bien. Or, j'ai personne au Maroc, je connais personne. Oui. Et ça, c'est, du coup, c'est peut-être une de mes difficultés pour pouvoir y aller. Maintenant, moi qui habite le sud de la France, c'est juste de l'autre en face. Hein. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est juste à côté.
Voilà.
Donc, ce n'est ni un problème d'argent, ni un problème de je ne sais pas quoi. Et il faut juste que j'y aille.
Voilà. Pour avoir discuté à de nombreuses reprises avec des amis juifs tunisiens, donc avec qui je partage quand même une certaine histoire, y a quand même un aspect dont on parle très peu ou qu'on gomme un petit peu, c'est quand même, on se représente la cohabitation et la coexistence entre juifs et musulmans en Afrique du Nord comme étant un passé de paix, de solidarité, etc., qui a existé, bien sûr, mais il y a eu aussi, il faut se rappeler, du statut de dhimmi qu'avaient les juifs dans les pays musulmans. Donc le dhimmi, c'est un statut particulier de citoyen soumis à certaines ségrégations, un impôt particulier. C'était les gens du livre, hein, les chrétiens et les juifs, qui, pour s'ils voulaient garder leur religion, devaient payer un impôt de capitation, la jizya. Il y a eu aussi, à certaines périodes, il faut le dire, il faut le reconnaître, des crimes qui ont été commis à l'égard des juifs en Afrique du Nord. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là qui vient peut-être en contrepoint d'une certaine histoire. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu as réfléchi certainement à cet aspect?
Mais au fond, finalement...
Faut rappeler simplement que Mohamed V fait partie des justes parmi les nations, puisqu'il a protégé la population juive marocaine sous Vichy. Hein. Ça, il faut aussi le rappeler.
Oui, mais bon, la France, n'a pas vraiment le cul très propre non plus.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et je ne parle pas de Vichy, parce que ça remonte à très très loin.
Le problème, c'est qu'il faut évoquer les raisons de
cette saleté.
Oui, bien sûr.
C'est qu'il s'agit juste du pouvoir, d'avoir le pouvoir. Et que le pouvoir politique, c'est le pouvoir religieux. Finalement, il n'y a qu'en Europe et en France, où en séparant l'Église et l'État, il y a un positionnement de la laïcité qui dit, ben voilà, on a le droit de pratiquer ce qu'on veut ou de ne pas pratiquer. On a aussi le droit de ne pas pratiquer.
Oui.
Bon, mais ça, c'est quelque chose qui est très récent, et on voudrait, à l'échelle d'une vie, donc à une échelle très courte, faire... table rase d'une échelle longue dans laquelle les populations et les civilisations changent, évoluent, avancent, reculent. Bon, on est dans un temps court, on voudrait que dans ce temps court, les choses évoluent comme dans le temps long.
Oui.
Donc là, on se plante, quoi. Alors oui, bien sûr, y a eu des difficultés, des exactions, des trucs, des machins. Et alors, est-ce que... moi, aujourd'hui, je dois dire « Ah, mais c'est l'arabe, il est le méchant parce qu'il a été méchant. » Ou est-ce que je dois continuer à écouter la propagande qui me dit « Ah, mais non, mais l'arabe est l'ennemi parce que c'est l'ennemi de la chrétienté et l'ennemi de l'Europe. » De quelle Europe d'abord? Mais bon, etc. Parce que c'est Charles Martel, que c'est Roland Arancevaux. Non, c'est tout ça. C'est tout. Ce storytelling, qui sur lequel on voudrait nous embarquer.
C'est
une question piège, quand tu me demandes.
Et sur lequel tu reviens de manière extrêmement fine et claire dans ta conférence gesticulée.
Ben merci.
Si tu le veux bien, on va faire une première pause musicale. Tu restes à l'antenne, bien entendu. Surtout, tu ne raccroches pas ton téléphone, tu restes avec nous. Et on va faire une première pause musicale.
We'll be right back.
Toujours Radio Libertaire, la voix sans du unimètre de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir, par téléphone interposé, d'accueillir Michel Benizri. Michel, peux-tu nous dire le titre de ce morceau et ainsi que le groupe qui l'interprète, et nous dire quelques mots, si tu veux bien, sur ce morceau que tu as choisi ?
Ana Mashou Al Yaman, du groupe Awa. Et c'est génial.
Ah oui, 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 je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça grâce à toi.
C'est trois femmes yéménites qui, je crois, vivent en Israël, donc d'origine du Yémen, chantent et parlent en arabe, et elles ont une musique extraordinaire, et en fait, ça parle du fait d'être des femmes modernes, ici et maintenant, et voilà, elles parlent aussi de leur de féminisme à leur manière, mais c'est, voilà, la musique, c'est la musique. Voilà, et c'est... Alors, grosso modo, ça dit, je suis yéménite, mais pas de là-bas, ou pas de là-bas dans le temps, pas d'avant, de maintenant.
Oui. Tout à l'heure, tu nous parlais donc de l'expérience qu'ont vécu tes parents en Israël dans les années 50-60, enfin dans les années 50, puisqu'ils sont revenus avant la fin de la décennie 50. Dans ta conférence, tu parles longuement d'un moment qu'on connaît très très mal, tu l'as évoqué tout à l'heure, d'un moment qu'on connaît très très mal ici en Europe en général, c'est le racisme dont ont pu souffrir les juifs originaires du monde arabe, que ce soit d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, du racisme qui leur avait été opposé par les juifs ashkénazes donc, qui viennent d'Europe. Et à un moment donné, dans ton conférence, il y a un moment qui est vraiment qui est très frappant, c'est que tu fais la lecture d'un article de presse du Haaretz.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis nous situer un petit peu cette histoire avec quelques références où tu parles d'un auteur aussi
Alors, en fait, je vais juste un petit peu essayer de resituer le cadre pour les auditeurs. Les orientaux, donc d'abord, en fait, quand on parle des juifs, globalement, on dit il y a les Ashkénazes et les Séfarades. Donc les Ashkénazes sont ces juifs d'Europe, principalement de l'Europe de l'Est et d'Europe du Nord, et des Balkans, enfin cette Europe-là, et les Séfarades qui sont en fait, si on prend à la lettre, des juifs d'Espagne qui ont été chassés par Isabelle la Catholique en 1492. Petite parenthèse dans le spectacle, je dis... 1492, pendant qu'il y en a qui sont allés découvrir l'Amérique, il y en a d'autres qui sont allés découvrir le Maghreb. Bon, ça, ce sont les Séfarades. Et en vérité, mais tous ceux qui vivaient en Orient, tous ceux qui vivaient au Maroc, en Algérie, en Libye, en Égypte, en Palestine, en Irak, en Iran, ils sont quoi ces gens-là ? Mais en fait, ils avaient été totalement invisibilisés parce que, globalement, du point de vue du narrateur qui est européen, c'était des Arabes. Et que les Arabes chrétiens, juifs ou musulmans, c'était tout pareil, tout ça, c'est une espèce de sous-population. Donc, cette sous-population, après avoir été invisibilisée, il y a eu la Shoah. La Shoah, je le dis aussi, en fait, les juifs d'Europe qui devaient peupler la Palestine du projet sioniste, ont perdu la vie dans les camps. Bon, maintenant, qui va peupler cette terre qui leur a été donc accordée et puis en plus, on découvrait qu'il y avait des gens qui étaient, entre guillemets, éduqués, ils étaient architectes, médecins, on voudra, et d'autres qui, en fait, avaient juste une autre culture, qui n'étaient pas des imbéciles, mais qui avaient juste une autre culture, une autre. Et cette autre culture, elle ne collait pas avec le projet. Donc forcément, comme ça ne colle pas avec le projet, et qu'on en a besoin pour aller au front. On a besoin d'eux pour faire bâtir des routes.
Il faut de la main-d'œuvre, là.
Béton. On a besoin de la main-d'œuvre. Donc maintenant, cette main-d'œuvre... elle ne correspond pas au modèle. Voilà. Donc on va se retrouver en face de gens qui vont écrire des choses comme ça. Alors j'essaie de retrouver en même temps le texte. Le texte, voilà. Alors c'est un article que j'ai trouvé dans le. Alors j'ai pas bien entendu pas lu tous les journaux, mais en faisant des recherches, je suis tombé sur cet extrait-là que je trouve assez. Alors, donc Haaretz, qui est un journal de gauche, hein, attention, hein, écrit en avril 49, le primitivisme de ces gens est insurpassable, ils n'ont pour ainsi dire aucune éducation, et pire encore, ils sont parfaitement incapables de prendre le moindre raisonnement intellectuel, ils ne sont guère plus évolués que les Arabes, les Nègres ou les Berbères de leur pays. Ces Juifs vivent sous l'emprise d'instincts sauvages et primitifs.
Oui, c'est terrible. C'est
l'extrait que je cite. Ben oui, c'est terrible. Mais c'est le reflet de la pensée coloniale de l'Europe de cette époque-là. Il faut se remettre dans le contexte. Si on ne fait pas ce boulot, de se remettre dans le contexte colonial, eh ben, non seulement on trouve ça dégueulasse, mais on ne peut pas le reprocher à ceux qui sont là-bas aujourd'hui, qui sont parfois encore là, mais pas tous. Voilà. Et c'est se remettre dans la pensée coloniale de l'époque qui nous permet de comprendre comment historiquement on en est arrivé là.
tu décris la descente du bateau et il y a une scène, une anecdote que tu cites là qui implique ta mère qui donne à manger à ton grand frère dans le bateau qui les emmène vers Israël.
Alors, ça c'est une histoire que ma mère m'a souvent racontée. Il y a quelques-unes des histoires comme ça font partie du patrimoine. Il y a eu l'été hier et il y a eu des histoires. Et celle-ci, je vais vous la raconter. En fait, comme tous les Juifs du Maghreb, ils ont pour partir en Israël, il fallait d'abord rejoindre Marseille avant de prendre le bateau. Et donc tous les Juifs migrants étaient rassemblés dans un camp, au camp d'Arenas. Et bien entendu, sur le bateau, on ne faisait pas voyager dans les mêmes classes les Juifs d'Europe et les Juifs du Maghreb. Donc mes parents voyagent en troisième classe. Et à ce moment-là, mon grand frère est bébé, il a 8 mois. Et ma mère va pour lui donner à manger. Donc, comme toute maman, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Et du haut du pont de la classe supérieure, il y a une femme européenne qui la regarde et qui s'étonne. Je ne savais pas qu'au Maroc, vous connaissiez la petite cuillère.
Voilà. Ouais. Bon, ça se passe de commentaires. Et puis après, il y a l'arrivée à Haïfa, au port d'Haïfa, avec donc l'accueil.
Un accueil chaleureux, où l'on sépare les Européens des Orientaux. Et on va faire subir aux Orientaux une énième brimade pas une injure, mais humiliation, à savoir, on va les laver. Alors, la manière de les laver à ce moment-là, c'est de les saupoudrer de DDT. Donc, ce produit chimique, comme il dit, voilà, pour vous débarrasser des poux, de la gale et de la teigne que vous nous ramenez en Israël. Donc, ces gens étaient considérés comme des gens sales et qu'il fallait nettoyer. Et la façon d'être sale était exprimée à plein d'autres endroits, d'ailleurs, parce que je ne vous raconte pas ça non plus dans le spectacle, parce qu'il n'y a pas la place, ou ce serait redire, voire encore plus dur. Mais il y a eu des... Comme dit, effectivement, il y avait des maladies, il y avait la teigne, il y avait des choses comme ça. Et ils se faisaient des essais, ils allaient tester des choses avec des rayons. Alors des rayons X, des trucs, on disait des rayons, on ne savait pas exactement ce que c'était. En vérité, ils utilisaient des appareils de réforme qui avaient été donnés par l'armée américaine ou laissés sur place par les Anglais, et on leur appliquait des rayons sur le crâne. Sauf que bien plus tard, on a appris que les doses qui étaient administrées étaient 100 fois les doses maximales admissibles telles qu'on les considère aujourd'hui. Alors forcément, quelques années plus tard, il y a eu des cancers au cerveau, il y a eu un petit peu des choses comme ça, c'est terrible. Et moi, je l'ai appris parce que ça a été le cas d'une de mes tantes. qui vivait en région parisienne. Et un cancer au cerveau, et puis on parle, mais d'où ça vient, et ça sort comme ça. On sait certainement, quand on lui a fait les rayons en arrivant en Israël, mais elle était gamine, elle devait avoir 16 ans. Et donc elle avait perdu ses cheveux comme quelqu'un qui avait le cancer, enfin, voilà, à 17 ans. Et puis donc, c'est ses rayons. Et puis donc, il y a une quinzaine d'années, elle déclenche un cancer. Et en parlant, en fait, j'apprends que... ça, c'est, donc j'apprends cette histoire qu'on me raconte, etc. Et aussi que l'État d'Israël, après avoir subi pas mal de dénonciations et de gens qui gueulaient à ce propos, des gens qui demandaient qu'il y ait une reconnaissance hein, de ces actes, l'État d'Israël allait reconnaître sa faute, sa responsabilité, et accorder une indemnité. Mais cette indemnité, elle ne serait accordée qu'à ceux et celles qui vivaient en Israël, et pas ceux qui avaient quitté Israël et vivaient désormais ailleurs, aux États-Unis ou en France, n'importe où. Mm-hmm. Et donc, en fait, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Donc, en fait, voilà, il y a sur les Mizrahim, sur les Orientaux, toute la misère du monde. Voilà, ce sont des bêtes.
Mm. Alors, il va y avoir dans les années 50 et 60 quand même une opposition politique assez violente de la part de ces juifs séfarades et orientaux, Mizrahim, comme tu viens de le dire, qui vont se révolter contre la situation dans laquelle ils se trouvent.
Alors, ça, c'est pareil, un truc qui est sorti, auquel je ne m'attendais peut-être pas vraiment, c'est l'histoire des Panterim Ashrorim. Alors, ça veut dire les Panthères noires. C'est clairement en référence au mouvement des Black Panthers. C'est-à-dire que c'est à un moment donné où on lève le poing et on se dit il y a trop de ségrégation, on n'en peut plus, là, tout ça change. Et quand on a parlé du sionisme comme un mouvement de gauche au départ, et c'était quand même quelque chose où on parlait d'un vivre ensemble, d'un mieux vivre, d'un projet collectiviste, très, très clairement à gauche, c'est les Panterim Ashrorim ont représenté les oubliés de la Terre promise. Je les appelle comme ça, finalement, parce que j'aime citer ce documentaire, film documentaire qui est sorti il y a un an et demi, qui s'appelle Mizrahim, les oubliés de la Terre promise.
Qui en est le réalisateur? Tu peux nous donner
C'est une femme. Je vais chercher, je vais retrouver. Ça va me revenir.
Ok.
Mais en même temps, Ella Shohat a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le sionisme du point de vue de ses victimes, juives.
Oui, oui, c'était, voilà. Elle est irakienne. Hein.
Alors, elle, oui, c'est ça.
Elle vient d'Irak.
Elle vit aux États-Unis et elle enseigne aux États-Unis aussi. Oui, c'est Michal Boganim. Voilà, Michal Boganim.
Le réalisateur du documentaire.
La réalisatrice de ce film Mizrahim, Les oubliés de la Terre promise. Un film de 2022, donc vraiment, c'est un film récent, quoi. Et moi, j'étais très touché par ce film. Je trouve qu'elle ne va pas assez loin. Mais bon, tant pis. En tout cas, ça, on en parle. Et c'est déjà quelque chose de très fort d'en parler. Mais de la manière dont Ella Shohat, elle parle du sionisme du point de vue de ses victimes juives, où là, par contre, elle raconte en détail. C'est un petit livre, hein, c'est un opuscule.
Je crois qu'il était paru à La Fabrique il y a quelques années, il me semble.
Alors oui, alors, je ne pourrais pas te dire, ça, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est un bouquin qui se trouve, hein, qui se commande. Et si, qui se trouve pas chez le libraire, on le trouve d'occasion aussi. Voilà, c'est partie des livres qu'il faut lire. En tout cas, Ella Shohat, c'est quelqu'un de très, très, très bien. J'aime beaucoup sa façon de travailler, de réfléchir. Elle a aussi écrit un bouquin sur le colonialisme qui s'appelle... colonialité et bon, je sais plus, ça me voilà, colonialité et bon, en tout cas voilà, ça fait pareil, c'est des gens qui réfléchissent, qui ont réfléchi avec des outils théoriques sur le rapport de colonialisme dans le temps, parce que finalement quand elle parle aussi du rapport en 1492, j'y reviens, la manière dont l'Europe a conquis les États-Unis, c'est-à-dire a massacré des gens, d'abord, avec aussi la question de Valladolid, savoir est-ce que les Indiens ont une âme ou pas, où en fait toutes ces questions-là n'ont de réponse, ne trouvent de réponse qu'au sein d'un questionnement colonialiste et capitaliste, à savoir on a besoin de faire du fric. Est-ce que ces gens-là sont nos égaux ou sont inférieurs, voire des animaux, comme les Noirs? C'était compliqué, parce qu'ils n'étaient pas complètement noirs, mais ils n'étaient pas complètement blancs non plus. Donc la controverse de Valladolid, elle est vraiment intéressante de ce point de vue-là. Mais en tout cas, nos Européens sont allés d'abord dépouiller un continent, puis le peupler avec principalement des malfrats et des assassins qui étaient bannis d'Europe et qui partaient là-bas en terre promise, cette terre nouvelle à conquérir. Ouais. Et en fait, ils ont massacré et tué toute une population. Voilà. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, les Incas, comme les Aztèques, ou les Maasai, ou ce qu'on voudra, en fait, c'est Bouni ou les compagnies, et on n'en a rien à foutre, quoi. Voilà. En gros, il faut vraiment... arriver à se remettre dans cette pensée-là, quoi. Et je trouve que ça, c'est une des choses les plus difficiles. Quand même, aujourd'hui, heureusement, on en est un peu sorti. Pas partout. Et pas pour tout le monde, parce que, par exemple, moi qui suis proche de pas mal de jeunes, ça n'a rien à voir, mais ma compagne a beaucoup œuvré auprès des migrants. Quand ils ne passent pas à la Libye et qu'ils sont noirs, le statut du noir n'a pas beaucoup évolué. Même s'il est musulman, on peut le buter, c'est pas grave, quoi. Voilà.
Pour en revenir à Israël des années 50 et 60, et à ce mouvement donc de protestation, de révolte même des panthères noirs. Alors moi, il y a un nom qui me revient comme ça que j'avais en tête il y a très longtemps. C'était celui de Charlie Bitton, qui était un des représentants de ce mouvement. Mmh. Tu racontes les manifestations très dures où les flics chargent ces ouvriers, hein, pour la grande majorité d'entre eux, qui vivent de manière très très difficile. Et ils vont les charger à coups de matraque, à cheval, hein, comme la police anglaise, l'ancienne police coloniale en Palestine. Mais cette histoire a été complètement occultée.
Bien sûr, dans le récit national, ça fait pas propre.
Et alors, ce que tu soulignes et qui est très très important, puisque ça a des répercussions sur la société israélienne actuelle, c'est que ces juifs, ces farades qui subissent la ségrégation du fait de leurs origines, qui sont soumis donc à un régime de colonialisme, ou de, en tout cas, une forme de racisme qui est à leur encontre.
Ils sont le prolétariat.
Ils sont le prolétariat. Ils vont se révolter contre le gouvernement de l'époque, qui est un gouvernement de gauche.
Oui.
Qui est un gouvernement
de... Sauf que ce gouvernement de gauche a c'est le rapport toujours au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une élite qui a 99% du gâteau et qui n'a pas l'intention d'y renoncer.
Oui.
Donc, c'est qui ces merdeux là qui viennent gueuler dans la rue et qui ne veulent pas aller bosser à l'usine ou fabriquer ou faire les routes ou faire du béton? Pour qui ils se prennent, quoi.
Et ça va aboutir à la création ou au renforcement de partis plutôt de droite, ou voire même de la droite religieuse, le parti Chasse en particulier?
Alors ça, c'est totalement historique aussi, parce que à ce moment-là de l'histoire, tous ces juifs qui viennent du Maroc, du Maroc ou du Maghreb, sont quand même très proches, enfin, à part les juifs d'Algérie qui ont une histoire un peu différente, mais tous ces juifs du Maghreb, quand même, sont encore très, très, très proches des rabbins, parce que, finalement, la loi est régie au quotidien par les rabbins, principalement. Et donc, en fait, s'être éloigné des rabbins, c'est aussi l'occasion de s'en rapprocher. Et les rabbins d'Orient, eux aussi, vont être en minorité, vont être considérés comme des sous-merdes. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se rapprocher, soit des rabbins, valeurs traditionnelles, comme je dis, et ça va effectivement donner naissance au premier parti religieux oriental, qui est le parti Chasse, c'est pas très progressiste, hein, tout ça, hein, c'est certain. Et puis pour les autres, ils vont se tourner vers le Likoud, d'ailleurs, parti de droite libérale, disant, On veut être comme l'autre. C'est-à-dire, nous aussi, on veut avoir un frigo et une bagnole, villa et une Volvo, quoi. Et, ben voilà, quoi. Je sais pas. C'est aussi le mouvement qui fait que tu as envie de te sortir de la merde dans laquelle tu es pour t'élever. Ce qui est louable et légitime. Le problème, c'est...
les moyens que tu te donnes, oui.
Et les moyens. Parce qu'en vérité, je parle d'une élite et d'un prolétariat, mais il faut... On ne peut pas oublier que tout cela a aussi généré un sous-prolétariat. Ce lumpen-prolétariat, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ont, en fait, sont les grands oubliés de cette affaire, puisque... on est dans le déni total, c'est-à-dire on part du principe que les Palestiniens, ben, ça n'existe pas, ils n'ont jamais existé, c'est le discours défascioniste, tu vois, du truc, en disant, ben non, ils n'ont jamais existé, parce qu'en fait c'était l'Empire Ottoman, qui avant c'était l'Empire d'Orient, chrétien, les chrétiens d'Orient, puis avant c'était l'Empire romain, donc en gros, il n'y a jamais eu... Palestine.
C'était le discours de ce ministre israélien qui est venu à Paris il y a quelque temps, ultranationaliste, simplement, voilà, c'était son discours qui a provoqué toute une polémique. Mais on va revenir, si tu le veux bien, dans la suite de l'émission sur justement un des sujets qui te tiennent à cœur et que tu développes beaucoup, qui est la fiction, qui est toutes ces fictions. Mais juste avant la deuxième pause musicale. Tu expliques bien que le mouvement sioniste, l'idée sioniste est née en Europe à la fin du 19e siècle dans un contexte quand même très très particulier.
On est dans un contexte colonialiste déjà de toute façon, mais qui lui s'inscrit dans une suite plus longue qui est 1789. On peut dire que c'est un moment fondateur où, en 1789, on pose les clés et les premières pierres de toute une pensée nationaliste qui dit que chaque peuple a besoin d'un État-nation. Donc à partir du moment où tout le monde, tout peuple a droit à cette autodétermination, alors il faut que, un, les Juifs soient un peuple pour pouvoir y prétendre, et deux, étant donné depuis le début de la chrétienté l'ensemble des pogroms et souffrances, que ce soit en Europe ou dans le Maghreb ou dans les pays musulmans ou partout, en fait, à partir du moment où il y a un peuple opprimé, donc la solution, c'est d'avoir un État-nation qui prenne en charge le destin de ce peuple. Et voilà. Et c'est comme ça qu'à partir de 1789, il y a cette pensée-là qui va se mettre en place avec plusieurs courants, notamment des courants très à gauche, comme le Bund, qui eux disaient qu'il faut un État juif, mais de langue yiddish, donc clairement on est dans cette pensée européenne, mais qui prennent en charge le destin dans une lutte pour le socialisme, à l'intérieur d'une lutte plus globale, pour les juifs, mais globalement pour tous les ouvriers et tout le monde socialiste. Les gens du Bund sont morts pour la plupart pendant la Seconde Guerre mondiale ou est passé avec la gomme de Staline. Mais aussi, tous ces différents courants vont conduire à il y a le procès de l'affaire Dreyfus où... comment il s'appelait déjà, lui, le grand barbu
Herzl, Théodore.
Théodore Herzl, qui était hongrois, lui, il était un juif, mais laïque, prenait l'intégration des juifs dans leur terre. En fait, voyant comment l'affaire Dreyfus tourne en France, pays des droits de l'homme, c'est pays des lumières, c'est vraiment son modèle, alors lui, il va théoriser la création d'un État, mais où la Palestine est une option comme une autre. C'est-à-dire, il y a l'Argentine, il y a l'Ouganda, il y a le plateau de Mao, il y a...
Madagascar,
on en cite comme ça quelques-uns, mais il y en a beaucoup en fait. Et finalement, c'est la Palestine qui va remporter la décision générale, mais en fait, générale de qui? Parce qu'en fait, à ce congrès de Bâle, où le projet Palestine va être définitivement choisi parmi tous les autres, il s'avère que tous ceux qui étaient contre ont décidé de boycotter ce congrès. et de ne pas voter. Et en boycottant, ne votant pas, en fait, ils ont permis à ce que ce soit cette voix-là qui remporte l'adhésion.
C'était un congressionniste, hein, c'est ça, hein.
Eh bien oui, c'est le congressionnisme. Et tous ceux qui étaient contre ont décidé de ne pas venir. Et c'est là où c'est terrible. Le sionisme, c'était, oui, bien entendu, une pensée nationaliste et colonialiste, mais où le projet Palestine était un projet comme un autre. Je crois vraiment, c'est important de vraiment se le mettre dans la tête. Mais en même temps, il avait une autre logique, c'est qu'il s'inscrivait dans la pensée coloniale européenne. Il avait toutes les bonnes cartes. Oui, c'était la terre de nos pères, des espèces de trucs, Sion, Israël, la Bible, etc. Mais aussi, c'était juste en face. Juste en face de la Méditerranée, de l'Europe. C'était pas loin, c'était pas à l'autre bout du monde. Comme à Madagascar, par exemple, où les Polonais ne voulaient pas aller parce qu'on ne pouvait pas y faire pousser de patates. Ça paraît une blague, mais c'est la vérité. Les Juifs d'Europe ne voulaient pas, enfin de Pologne, ne voulaient pas qu'on s'installe là-bas à cause du fait qu'on ne pouvait pas y faire pousser des patates. Ça peut paraître complètement dingue et dérisoire. Bref, on va donc décréter qu'on va s'installer en Palestine. Voilà. Et ça a arrangé aussi les Européens.
On va faire une
pause. Les Européens.
Ouais. Oui, bien sûr.
On va faire la pause.
On va faire la pause médicale. Si tu veux bien, tu restes avec nous et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission.
On se retrouve.
À tout de suite.
À tout de suite.
تجار وديري مزية وحلا نسكرة للكولي زاد عليا الهم والحمادية كي ندير نشوف كراكي طولي أماما أماما شاطا غير في حاجات حواس اللطوية أماما أماما شاطا غير في حاجات حواس اللطوية يا فاطمة في التجار وديري مزية وحلا نسكرة للكولي زاد عليا الهم والحمادية كي ندير نشوف كراكي طولي أماما ماما شاطرة غجات حواس المطيه ماما ماما شاطرة غجات حواس المطيه جاوبت عليا مولاة الحزام وقاطي رونديفو في لاكوميش البحر هايج وهرا في اللي شافها هاد الليلة محالة نسيها جاوبت عليا مولاة الحزام وقاطي رونديفو في لاكوميش البحر هايج وهرا في اللي شافها هاد الليلة محالة نسيها أماما أماما شاطرة غير غزات حواس المطوية أماما أماما شاطرة غير غزات حواس المطوية حفلة سهر الليالي وعروتي تبغي تعنق الجير حتى يبان الحال قلبي قلبي زير كندير يا ماي هادشي راه غادي تطير سهر الليالي وعروتي تبغي تعنق الجير حتى يبان الحال قلبي قلبي زير كندير يا ماي هادشي راه غادي تطير
toujours avec Sofiane Saïdi. Toujours Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Michel Binizri. Michel, tu es toujours là, bien sûr.
Bien entendu, je suis avec vous.
Alors, on vient d'entendre dans un tout autre style, là, c'est Acid Arabe, c'est bien ça ?
Oui, la Halfa.
La Halfa. Une thématique qui te tient particulièrement à cœur, c'est celle de la fiction. Toi, tu es comédien, c'est ton métier de raconter des histoires, de les mettre en scène et de faire en sorte que nous, spectateurs, on y croit.
Oui.
Vas-y, je te laisse la parole sur ce sujet.
Alors, en fait, comme c'est souvent le cas, il y a plusieurs fils dans une conférence gesticulée. Et moi, j'ai fait le choix de tresser toutes ces histoires politiques avec la notion de fiction. Alors, en fait, cette notion de fiction, elle repose sur une partie biologique de l'humanité. On fonctionne avec des émotions et de la raison. Et émotions et raison sont en fait jamais vraiment en équilibre. Il y a un combat en permanence entre les deux. Et si on était totalement raisonnable tout le temps, ben il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Et en fait, on se fait totalement avoir par l'émotion qui va nous faire croire que le dernier iPhone, il est meilleur que le précédent. Et on va dépenser un fric monstre pour ça.
Oui, les publicitaires savent très bien jouer justement sur ce côté émotionnel. Ils connaissent très bien ces histoires-là, oui.
Comment l'émotion va nous faire prendre des décisions parfois qui vont à l'encontre de notre raison. Ça va être, par exemple, aussi toutes les fake news où on se retrouve avec une formulation qui pourrait marcher. Il y a vraiment la notion de rumeur, c'est que ça pourrait marcher. Et si on est déjà sensible à ce type d'argumentaire en disant le complot, le truc, le machin, etc., on nous cache tout, on nous dit rien. Alors, on va être d'autant plus sensible et rentrer et fonctionner dedans. Et du coup, c'est complètement la partie émotionnelle qui va prendre le dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que l'émotion dans le rapport à la fiction ? Alors, moi, je le dis en blaguant parce que je suis comédien, donc je suis payé pour faire croire aux gens, aux histoires qu'on leur raconte. Et que il faut qu'à la fin, le héros meure et que quand le héros meure, tout le monde va pleurer. Voilà. Mais oui, les larmes, à ce moment-là, elles sont bien réelles. Et l'émotion aussi, elle est bien réelle. Mais le problème, c'est quand l'émotion est tellement forte qu'on finit par croire que la fiction, c'est le réel. Et là, d'un coup, il faut qu'il y ait une autre partie de notre cerveau qui se mette en branle pour comprendre comment dans nos vies, au quotidien, on est coincé en permanence, ballotté en permanence, électrisé dans cette tension entre l'émotion et l'analyse et la raison. Et donc, c'est la fiction. Et en fait, moi, je vais tendre à l'intérieur de tout ça ce troisième fil en pointant régulièrement, en revenant dessus, en disant « Non, mais vous vous rendez compte que ça, en fait, ça répond à des éléments de fiction. » Tout un tas de choses, de sujets ou d'exemples qu'on a pu échanger depuis tout à l'heure, en fait, repose complètement sur l'émotion. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on s'indigne, ou que l'on puisse s'indigner de la manière dont ces Mizrahim ont été traités, parce que c'est des Juifs orientaux, on les a considérés, sous-considérés, maltraités, etc. En fait, on prend à la fois le réel historique, donc une part de la raison, que l'on fait tremper dans notre émotion d'aujourd'hui, dans notre pensée d'aujourd'hui, et là, on va se révolter. Ou au contraire, être tout à fait d'accord selon du point de vue, du point de vue politique, où on se situe. Donc ce troisième fil-là, pour moi, il est vraiment important, parce qu'il a des conséquences énormes sur notre rapport au chef, sur notre rapport au désir de ressembler, de se conformer. Et tout ça, ça va complètement dans le sens, d'ailleurs, je pense, de la réflexion qui est au sein d'une radio comme la vôtre. Hein. C'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, on est pétri de fictions qui nous construisent, qui font de nous l'être unique que nous sommes, mais qui est notre culture transmise ou pas transmise, et justement comment le trou d'une culture non transmise génère un état émotionnel qui va faire la personne qu'on est aussi. Donc on voit bien que tout ça c'est très complexe, et moi je l'ai abordé en fait par la psychanalyse, parce qu'en fait je me suis dans mon parcours senti pas bien à des moments par rapport à des questions que je me posais, et la psychanalyse m'a tellement aidé à identifier, à décrypter et à me rendre compte que j'avais un certain nombre d'émotions. Par exemple, tout à l'heure, tu disais la nostalgie. Bon, je parlais de la nostalgie.
Oui.
Mais comment cette nostalgie en fait, s'inscrit à l'intérieur d'une chose qui s'invente en moi ou qui s'est inventée en moi? Puisque, comme je l'ai dit, je ne suis jamais allé au Maroc. Malheureusement, on ne m'a pas transmis la langue. Alors, je la comprends un peu. Je suis capable de la prononcer, mais en fait, je ne la parle pas. Je n'ai pas le vocabulaire. Voilà. Mais en même temps, quelque part, c'est une langue qui est en moi. Parce que je l'ai entendue depuis mon plus jeune âge. Ce monde-là, ce monde rêvé, fictionné en moi, de dont tu parlais, mais ce n'est pas un fantasme. Ben oui, bien sûr, c'est un fantasme. Et c'est génial qu'on ait des fantasmes, parce que c'est aussi un moteur pour nous faire avancer, ces fantasmes-là.
Là, c'est au niveau... Excuse-moi de t'interrompre, là c'est au niveau de individuel, et bien entendu, à nos niveaux, on a effectivement nos idées, notre mythologie personnelle, en fonction de ce qu'on a pu vivre, etc. Mais il y a aussi...
Et les collectifs aussi.
Voilà, et là c'est au niveau collectif, et dans ta conférence, tu parles du récit national, du roman national... dans lequel se mêlent à la fois le politique et le religieux, en particulier en ce qui concerne l'élaboration du sionisme et de sa constitution et de son actualité à travers ce qui se passe en Israël aujourd'hui.
Oui, oui, oui. En fait, je commence dans le spectacle très très vite à poser ces trois fils. Et celui de la fiction, tout de suite j'y viens en le simplifiant vraiment au plus simple possible en disant: une fiction, c'est un personnage, il faut qu'il ait un objectif et il faut qu'il y ait des obstacles. Plus il y a d'obstacles, plus l'histoire est intéressante. Et en fait, en prenant ça, n'importe quelle histoire, quel film, n'importe quel roman...
On ne t'entend pas très bien, Michel, je pense que... Oui, il y a un petit... Il y a un petit problème de transmission.
Est-ce que là, on m'entend mieux?
Oui, là, c'est mieux, oui.
Bon. Oui, je disais qu'à partir d'un squelette minimaliste de fiction, c'est-à-dire un personnage qui a un objectif et pour l'atteindre, il y a des obstacles. Plus il y a d'obstacles, plus l'histoire est intéressante. À partir de ce squelette-là, on peut tout faire rentrer. Tout. N'importe quel roman, film et fiction nationale, roman national, etc., etc. Toute l'histoire est fabriquée sur ce même schéma. Et en fait, c'est un schéma qui marche très très bien pour nous, parce que du coup, on part en empathie, on va rentrer en relation avec le personnage, on va s'identifier au personnage, et on va rentrer dedans. Et ça, le roman national l'a compris très tôt. Alors, le roman national n'étant pas une entité en lui-même, hein, bien entendu,
bien sûr.
Mais disons que ceux qui se sont rendus compte le plus tôt que c'est un moyen de fédérer, de fabriquer groupe, de faire groupe, ben vont inventer un récit. Et n'importe quel récit. Donc ça peut commencer par les cosmogonies, c'est-à-dire l'explication de l'origine du monde, de notre monde. Alors, en Australie, on ne se raconte pas exactement le même que les Grecs se le racontaient, que les Amérindiens s'en racontent encore une autre. Et sur le monde entier, on va avoir des cosmogonies différentes. C'est une manière de répondre peut-être aussi aux questions du jour, de la nuit, de l'angoisse de la mort. Enfin, pourquoi ? C'est la question du pourquoi. Donc on raconte quelque chose. Et à partir du moment où on est tous d'accord avec ce même récit, on est du même groupe, on peut se reconnaître. Alors, pour peu qu'on ait une langue commune, ben, c'est encore plus facile. Mais si on prend le cas de la France, précisément, et je dis, il y a un roman national, et ben, le roman national dit que nous avons combattu les Sarrasins, Charles Martel, Roland à Roncevaux. Le roman national, c'est Molière, c'est le vase de Soissons, c'est tout un tas de choses comme ça qu'on nous apprend dès le plus jeune âge à l'école primaire, et qui va faire ce socle commun, cette histoire, culture commune, et à partir duquel on va tous pouvoir s'identifier. Et l'autre, ah ben, il n'a pas la même histoire. Et du coup, on va passer aussi de faire le distinguo entre le nationalisme et en fait, je recherche le mot et le patriotisme. De Gaulle, je crois que c'est lui qui avait dit le patriotisme, c'est l'amour de son pays, le nationalisme, c'est la haine du pays de l'autre.
Oui, c'était ça.
Voilà. Mmh. Il y a l'autre dedans. Mmh. Et donc, essayer de comprendre comment tout ça, ce sont des récits et comment nous, on en a besoin. Si on ne parle pas à un enfant, à un nouveau-né, en quelques mois, il meurt. C'est quand même un truc de dingue. Mmh. C'est Frédéric II de Bavière, je crois, qui au XIIIe siècle, avait voulu faire un test pour savoir quelle était la langue naturelle de l'humanité. Il avait demandé, lui qui parlait 9 langues, il avait demandé que l'on prenne des enfants, donc on a kidnappé des enfants, et il avait demandé à des nourrices de leur prodiguer tous les soins nécessaires, mais de ne jamais leur parler. Ben, tous ces enfants sont morts, tous, et sont morts dans les 6 mois qui ont suivi. Ouais. Donc ça dit que combien la voix, la langue, et donc tisse du lien, et carrément est un élément de survie de l'humanité, de notre espèce. Voilà. Donc la fiction, moi je le dis comme Nancy Houston et d'autres ont pu théoriser aussi là-dessus, en disant que c'était carrément un élément de notre espèce. Là.
Mais on peut aussi...
Oui, vas-y.
Elle peut être aussi... L'outil est manipulé pour des intérêts, comme tu le disais, nationalistes, politiques.
Bien sûr. Oui, ben oui. Ben nous dire qu'on en a absolument besoin des bassines de Soline, ça c'est... Ben oui, parce que vous comprenez, notre héros, c'est l'agriculteur. Son objectif, c'est de nourrir la planète, la France en l'occurrence. Et premier obstacle, il ne pleut plus. Donc, il faut quoi ? Ben, il faut les bassines de Soline. Voilà. Ah, deuxième récit, la France a besoin de son autonomie énergétique. La preuve, vous voyez, le cours du pétrole est énorme. On oublie de nous dire que 98% du prix de l'essence, c'est une taxe. Hein. Bon, c'est perçu par l'État. Mais, vous voyez, ça coûte très cher, c'est difficile. Donc, pour avoir notre... Et puis le gaz, vous voyez, ce salopard en face de Poutine, il nous pose des problèmes. Donc, naturellement, on a besoin de nos centrales nucléaires, parce qu'on est bon là-dedans. Donc ça, vous voyez, tout ça, c'est du récit, et c'est comme ça qu'on nous fait passer les choses, qu'on nous donne les chiffres réels, et qu'à ce moment-là, nous, citoyens, eh bien, en connaissance de cause, donc il faut être éduqué, hein. Il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui pensent, il faut des gens qui sont en capacité de prendre pas seulement l'émotion du récit, parce que merde, j'ai plus de jus, comment je fais cuire à manger, ou comment je me chauffe quand j'ai froid. Mais avec la raison, on va pouvoir se dire, ah ben on va agir de cette manière, de cette manière, de cette manière. Et c'est comme ça qu'un certain Darmanin essaye de faire passer pour des sauvages des gens qui simplement essayent de prendre une position de gens qui pensent, qui réfléchissent.
Ce sont des éco-terroristes.
Éco-terroristes, voilà. Donc en fait, on va utiliser l'émotion. Regardez, on va nous montrer des images de « ils jettent des bouteilles sur la police ». Mais on montre pas on parle pas des 110 plaintes qui ont été acceptées et reçues contre la police.
Ouais.
Pendant le même temps. Voilà.
Simplement pour en revenir, si tu veux bien, Michel, à ta conférence gesticulée. Depuis que tu l'as travaillée, que tu l'as mise en scène, que tu la présentes devant un public, quels ont été les retours auprès de toi, dans ton entourage personnel, familial? Est-ce que c'est facile en tant que juif de prendre les positions que tu prends sur ton histoire personnelle, mais aussi sur la politique et le conflit israélo-palestinien, tout en sachant qu'il y a quand même une ambiance parfois d'antisémitisme qui renaît malheureusement un petit peu partout. Quelles ont été pour toi les conséquences personnelles de cette aventure ?
Peut-être que la première des choses qu'il faut dire, c'est que dans cette conférence gesticulée, je me suis confronté à la problématique de la loyauté et du conflit que ça peut engendrer. Le conflit de loyauté, c'est une fiction constitutive du groupe auquel je suis censé appartenir, voire au groupe où, dans lequel l'autre ou certains autres me mettent. Donc c'est pour ça que moi, dès le départ, je dis, moi je suis un juif, mais ni croyant ni pratiquant. Alors, peut-être que ça calme un peu. Et que, aussi, dès le départ, je pose comme cadre en disant que je suis anticapitaliste et anticolonial, et que je pense que le nationalisme, le colonialisme et le capitalisme sont les trois plaies sur lesquelles il faut travailler. Alors, comment, au fur et à mesure que je travaillais, je me rendais bien compte que j'étais en face, moi-même, de mon propre conflit de loyauté. Est-ce que j'allais trahir l'espoir de mes aïeux? Est-ce que j'allais trahir le rêve de cette communauté à laquelle, assez rapidement, je n'ai plus voulu appartenir? Très tôt, je me disais, mais putain, je ne peux pas me reconnaître dans le discours colonialiste ou raciste de ces gens-là. Ces gens-là étant d'autres juifs de la communauté. Et donc, je me suis naturellement éloigné d'eux pour... me réinventer peut-être une autre vie, une autre fiction dans laquelle j'allais me sentir mieux, qui allait plus ressembler à mes propres idéaux. Donc, si je me suis, dans un premier temps, éloigné, je restais quand même pas toujours très clair avec tout ça. Et en même temps, en reniant jamais l'idée que j'avais une vraie culture et que cette culture-là, elle était forte et que c'était un plus et pas quelque chose qu'il fallait que je cache, mais plutôt quelque chose qu'il fallait que je revendique. Sauf que quand la revendiquer, c'était brusquement appartenir à un mouvement sioniste, plutôt à droite, voire très à droite, là, c'était pas possible pour moi, je pouvais pas. Donc trouver le chemin pour à la fois ne plus me retrouver dans ce conflit de loyauté, et en même temps dénoncer ce qui était à dénoncer, et puis dire, ah bah tant pis, aux autres, faites le travail. Moi, je l'ai fait pour moi. Il y en a qui se reconnaissent, il y en a qui se reconnaîtront, il y en a pour qui ça sera peut-être une première marche d'un travail plus long. Moi, je considère que je suis peut-être au début encore du travail et du chemin sur lequel je me suis lancé. Il n'empêche que dans ma famille, ceux qui ont fait le choix de venir me voir m'embrassent chaleureusement en me disant « c'est super ce que tu racontes parce que quand tu racontes l'histoire du jambon, du sandwich au jambon, putain j'ai la même histoire que toi et c'est drôle. » Et des fois c'est un cousin ou une cousine et on ne s'est pas vu depuis 30 ou 40 ans. Et c'est génial quoi de se retrouver pour ça. C'est-à-dire qu'ils viennent voir leur cousin, ils savent que je suis un acteur, ils m'ont régulièrement vu à la télévision dans des rôles de X ou Y, et dans des séries ou je ne sais quoi. Et puis là, ils viennent me voir sur un endroit où eux-mêmes se reconnaissent, mais ils n'ont pas trouvé, eux, comment le mettre publiquement sur la scène. Mais ça, c'était mon boulot, parce que je suis comédien, et que naturellement, c'était sur la scène que je devais le faire. Eux l'ont fait autrement, peut-être.
J'imagine que les événements qui se produisent actuellement en Israël, avec ces manifestations quasi quotidiennes depuis plusieurs semaines maintenant, doivent te toucher particulièrement. Tu dois certainement suivre cela de près, et puis peut-être que tu as un mot à dire à ce sujet. Je ne te demande pas des conclusions géopolitiques ou autres, mais simplement ton regard à travers ce que tu as dit jusqu'à maintenant sur cette actualité un peu brûlante.
Peut-être déjà, je voudrais parler personnellement encore d'une chose qui me conduit à la question que tu poses. c'est qu'en fait, j'ai décidé d'adhérer à l'UJFP. L'UJFP, c'est l'Union des Juifs de France pour la Paix. C'est-à-dire que c'est vraiment à 63 ans que j'ai une part de moi qui dit, mais en fait, tout ce que je raconte là, il y a des gens qui militent, qui carrément ont fait le boulot et militent. Et en fait, je me suis... eux sont venus voir mon travail et m'ont dit, c'est génial parce que ce que tu fais là, ça nous ressemble. Ça ressemble à notre combat, à notre lutte. Tiens, lis ça. Ils m'ont filé des bouquins en disant, tiens, lis ça. Et en lisant leurs bouquins, je m'y suis reconnu. Et là, je me suis dit, en fait, moi, j'ai un peu réinventé la poudre qui pète tout seul dans mon coin. Et qu'il y a d'autres qui, avant moi, ont aussi fait un chemin, un travail, et ont réfléchi. Et du coup, aujourd'hui, sans être un militant, parce que je suis un petit peu pas à cet endroit-là, en tout cas, je suis content de faire partie de cette association et qui lutte pour la paix, pour la reconnaissance des identités et qui est antisioniste et pro-palestinien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce que ça me fait, honnêtement, moi, je ne suis pas israélien, je n'ai pas le droit de vote, donc je ne peux pas tellement intervenir. La seule chose, c'est que si je pouvais m'adresser aux Israéliens, c'est continuer à sortir dans la rue. C'est par la rue que vous gagnerez des points. Et puis, virez Bibi, virez ce mec-là.
Mais Benjamin Netanyahou.
Voilà, Benjamin. Mais le récit qui a été tenu depuis des décennies, qui est un récit de haine, eh ben, petit à petit, il est rentré dans les cerveaux. Et d'une manière totalement émotionnelle, les guerres, les assassinats, les bombardements, les attentats, les trucs, les machins. Ah oui, mais même si on ne parle pas des deux poids, deux mesures, hein, c'est-à-dire, oui, de toute façon, toujours un drame. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toujours un drame quand il y a un mort. Il n'y a pas un drame qui vaudrait plus et l'autre qui vaudrait moins. C'est toujours un drame. Mais ce n'est pas possible d'accepter que l'eau à Gaza soit 4 fois plus chère qu'en Israël, quand c'est Israël qui la distribue. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Ce n'est pas possible d'accepter qu'on détruise les maisons. Ce n'est pas possible que l'on considère que la terre de l'autre ne puisse pas lui appartenir si on considère que la terre, on a le droit d'en être le propriétaire. C'est quand même aussi une sacrée fiction, mais bon, continuons. Quand il y a des gens, Yvan Attal par exemple, que je ne connais pas, je ne sais pas tellement quelles sont ses positions politiques, mais il a quand même dit, j'ai peur qu'Israël, ça devienne l'Iran. Oui. Pour moi, moi aussi, j'ai peur que ça devienne l'Iran. J'ai peur de ça, quoi. Moi qui, enfant, pouvais jouer avec Mohamed, qui était un ami, voilà, c'était possible.
C'était pas moi.
Hein. Et non, mais c'était pas toi, mais c'en était un autre. Et c'était un véritable ami. C'est quelque chose qui est important pour moi de le rappeler. C'est que c'était compliqué dans ma tête. Parce que si on me dit, attention, tous les Arabes veulent tuer les Juifs, putain, mais ce Mohamed qui est mon voisin dans la classe et avec qui je suis ami, et c'est peut-être le plus proche, pourquoi il serait mon ennemi? Alors pourquoi là-bas, en Israël ou en Palestine, appelleront ou Palisraël ou comme on voudra, pourquoi ils ne pourraient pas vivre ensemble? Il faut juste à un moment donné sortir de cette pensée colonialiste et nationaliste qui est deux pensées de merde, il faut le dire. Voilà.
On arrive au...
Une représentation trop ancienne du monde et qu'il faut un peu réinventer un monde nouveau aujourd'hui. Voilà.
Merci Michel, on est au terme de l'émission. En tout cas, c'est un très, très grand plaisir de t'avoir eu au téléphone pour cette heure et demie de discussion à la fois très personnelle et puis en même temps plus générale. On terminera sur ce très beau mot de la fin pour un monde nouveau, un monde où on espère où on pourra vivre... en paix.
En paix, et surtout en se racontant des histoires de nouvelles et positives, plus inclusives.
Exactement. Alors, est-ce qu'on peut trouver un endroit sur Internet dans lequel on peut suivre ta conférence ou savoir à quel endroit on pourra la retrouver?
Alors, il y a un site qui s'appelle conférence-gesticulée.net qui regroupe 280 conférences gesticulées aujourd'hui. Dans lequel il y a un agenda avec une carte interactive, donc on peut aller se balader sur cette carte et voir toutes les prochaines représentations pour toutes les conférences, pas seulement la mienne.
D'accord.
En l'occurrence, ma prochaine, c'est le 5 mai dans le Var, à côté de Toulon, à Olioul, Après, j'en ai encore une quinzaine jusqu'au mois de décembre, là, un peu partout en France, en Normandie, en Bretagne, dans le Grand Est, Strasbourg. Voilà. Après, je retourne au Mans, à Dijon, à Martigues, à Perpignan, un petit peu de partout. Voilà, il y en aura encore l'année prochaine.
Eh ben, j'invite tous nos auditeurs, s'ils le peuvent, s'ils sont à proximité, voilà, d'aller écouter et suivre ta conférence. J'en ai vu une sur Internet et c'était vraiment très très bien. Merci encore mille fois, Michel. Ouais,
écoute,
et puis,
merci, bravo.
Et puis on te suivra.
Merci beaucoup à toi aussi.
Au revoir.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Vous avez tous